Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Depuis quelques semaines, nous vous proposons de partager quotidiennement avec nous ces merveilleuses lettres écrites par les moines du désert qui, du grand Antoine en passant par Jean Climac, Macaire et Silouane, jusqu'à Matamasquine, ont considérablement imprégné toute la mystique et la théologie de nos frères, les chrétiens d'Orient. Ces lettres sont des trésors d'enseignements pratiques pour ouvrir à Dieu qui frappe la porte de notre cœur. Aujourd'hui, nous poursuivons la vie et l'instruction spirituelle de Séraphim de Sarov, moine russe du XIXe siècle. Séraphim nous évoque ici son ascèse et l'amour maternel que doit développer tout pasteur de l'Église. « Je sais, disait le starets, mais comment savait-il ? Un de ses amis, le père Antoine, igoumène du monastère de Vysokogorsk, un habitué de Sarov, fut un jour témoin d'une conversation entre le saint homme et un marchand de Vladimir qu'il voyait pour la première fois, mais dans l'âme duquel il lisait comme dans un livre ouvert. Le père Antoine lui demanda ensuite comment il arrivait à pénétrer dans les tréfonds les plus intimes de chaque conscience, sans poser de questions, sans attendre de confidence. La réponse du starets nous ouvre les yeux. « Il venait vers moi, répondait-il en parlant du marchand. Comme les autres, comme toi, voyant en moi un serviteur de Dieu. Et moi, indigne Séraphim, c'est comme un pauvre serviteur de Dieu que je me considère, et ce que Dieu ordonne à son serviteur, je le transmets. La première pensée qui me vient, j'estime que c'est Dieu qui l'envoie, et je parle sans savoir ce qui se passe dans l'âme de mon interlocuteur, mais en croyant que c'est la volonté de Dieu et que c'est pour son bien. Parfois, m'étant fié à ma propre raison, je répondais, pensant que c'était facile. Dans ces cas-là, il se produisait des erreurs. Comme le fer se donne à l'enclume, je donne ma volonté à Dieu. J'agis comme il veut. Je n'ai pas de volonté propre. Mais le père Antoine répliquait que le starets voyait l'âme d'un homme comme un visage dans un miroir à cause de la pureté de son esprit à lui. Le père Séraphim mit sa main droite sur la bouche de l'igoumène. « Non, ma joie. Il ne faut pas parler ainsi. Le cœur humain n'est ouvert qu'à Dieu seul. Si l'homme s'approche, il voit combien le cœur de l'autre est profond. Séraphim disait, « Sois une mère pour tes moines plutôt qu'un père. » Tout supérieur doit être et rester pour ses ouailles comme une mère raisonnable. Une mère aimante ne vit pas pour elle, mais pour ses enfants. Elle supporte les infirmités des infirmes avec amour. Elle purifie ceux qui sont souillés, les lave doucement, paisiblement, les habille de vêtements propres et neufs, les chausse, les réchauffe, les nourrit, les console, et tâche de les entourer de façon à ne jamais entendre de leur part la moindre plainte. De tels enfants sont attachés à leur mère. Ainsi, chaque supérieur doit vivre non pour lui, mais pour ses ouailles. Il doit être indulgent pour leur faiblesse, supporter avec amour leur infirmité. La cellule de Séraphim était toujours ce taudis encombré de bouteilles de vin de messe et de sacs de pain sec dont il distribuait des petits morceaux à ses visiteurs. D'autres bouteilles contenaient de l'huile pour les veilleuses. À un disciple qui lui demandait pourquoi il allumait tant de cierges et de veilleuses devant ses icônes, le starète se répondait « Des gens m'apportent de l'huile et des cierges en me demandant de prier pour eux. Je mentionne leurs noms en récitant ma règle. Mais comme ils sont nombreux, je ne pourrais pas les mentionner chaque fois que la règle demande. Je n'aurais pas le temps d'achever la lecture de ma règle si je le faisais. Alors j'allume un cierge pour chacun en sacrifice à Dieu. Parfois un gros cierge pour plusieurs et aussi des veilleuses. Et là où la règle demande que je les mentionne, je dis « Seigneur, souviens-toi de tous ces gens, tes serviteurs, pour les âmes desquelles moi, indigne séraphin, je fais brûler devant toi ces cierges et ces lampes. » Le père Séraphim attribuait une grande importance à cet usage qu'il faisait remonter à Moïse. Dieu n'avait-il pas parlé à Moïse en ces termes « Moïse, Moïse, dis à ton frère Aaron d'allumer devant moi des lampes de jour et de nuit. Ceci m'est agréable et c'est un sacrifice qui me plaît. » On aurait en vain cherché dans la Bible un texte exact correspondant. C'est un exemple d'une de ces paraphrases bibliques dont le père Séraphim usait souvent, inspiré en l'occurrence de l'Exode et du Lévitique. Il aimait à comparer la vie humaine à un cierge. En regardant un cierge allumé, surtout à l'Église, pensons toujours au début, au déroulement et à la fin de notre vie. Comme font un cierge allumé devant la face de Dieu, ainsi à chaque instant diminue notre vie, approchant de son terme. Cette pensée nous aidera à ne pas nous dissiper à l'Église, à prier avec plus d'ardeur et à faire notre possible pour que notre vie ressemble à un cierge fabriqué avec de la cire pure, brûlant et s'éteignant sans puanteur.
Oh.
Séraphim et son expérience des femmes et des enfants. Dans cette cellule si souvent décrite, dont l'air, malgré l'encombrement, restait étrangement pur, il recevait tout le monde, beaucoup de femmes. N'avait-il pas dit un jour qu'il fallait se méfier comme de la peste de ces corneilles peintes ? En vieillissant, rempli qu'il était de force spirituelle, son attitude envers elles avait changé. Le premier parmi les saints russes, il devait s'occuper de leur sort, prévoir le rôle qui, à l'avenir, leur était réservé. Je n'oublierai jamais, raconte l'une d'elles, comment, ayant prié avec moi devant l'icône de la Mère de Dieu, il mit sur ma tête ses mains chaudes, et je sentis tout à coup une force vivifiante se répandre à travers mon corps tout entier. Je levai les yeux sur le Père, et je vis qu'il pleurait. Une de ses larmes tomba sur mon front. Pleurait-il sur moi ? Je n'osais lui demander. Pleurait-il sur le sort de tant de femmes esclaves de maîtres inhumains, de maris dont la brutalité meurtrissait leurs âmes et leurs corps, d'orphelines sans dot et sans soutien, dont s'occupait jadis sa mère, Agathe Moshnine. En parlant à des gens mariés, le starets n'entrait pas dans les détails de la vie conjugale, il se contentait de demander aux époux la fidélité réciproque et l'amour qui assure à la famille la stabilité et la paix. Il insistait sur l'hospitalité et l'aumône, n'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges, a dit saint Paul. Quant à l'aumône, c'est gaiement qu'elle doit être faite. Dieu aime celui qui donne d'un cœur joyeux. Grand était le respect de ce moine pour la famille. À un homme venu se plaindre de sa mère ivrogne, il mettait promptement la main sur la bouche pour l'empêcher de parler et pour montrer que les vices des parents ne dispensent pas les enfants de les honorer, comme le demande la Bible. Le père Séraphim discernait les esprits, prédisait l'avenir, entretenait des relations télépathiques avec des ermites vivant à des milliers de kilomètres de distance, répondait aux lettres sans jamais les ouvrir. Il avait le don de lévitation et de bilocation, et voici que le don de faire des miracles et de guérir des malades lui fut accordé. S'en réjouit-il ? Les vrais saints non seulement ne désirent pas faire de miracles, mais quand ce don leur est conféré, ils le refusent. Ce n'est pas seulement devant les hommes qu'ils ne veulent pas ce don, mais dans le secret de leur cœur. Si certains acceptaient ce don, c'était par nécessité. D'autres, par ordre de l'Esprit-Saint agissant en eux, et nullement par hasard, sans nécessité.
Spartania, y las
Voici maintenant quelques miracles du Père Séraphim de Sarov parmi des centaines. La règle dont la souveraine du ciel avait doté la jeune communauté qu'avait créée Séraphim, de femmes, était des plus simples. La prière de Jésus et l'obéissance étaient ses fondements. Trois Notre Père, trois Je vous salue Marie, la récitation du Credo suffisait le matin, midi et soir, à la pratique quotidienne de ces paysannes qui, pour se nourrir, continuaient de travailler dans les champs, accompagnant toutefois, et c'était le plus difficile, leurs activités quotidiennes par la prière ininterrompue du cœur. Hésychaste convaincu, le Père Séraphim n'avait pas hésité, malgré les critiques, à faire de ce tête-à-tête avec le Seigneur la base même du nouvel édifice. La lecture ininterrompue du psautier à l'église, par 12 sœurs spécialement assignées à cette tâche, était cependant obligatoire, ainsi que le chant de la paraclésis, un office à la Vierge, le dimanche avant la liturgie. Quant à l'obéissance, par tous les moyens, le Père Séraphim s'évertuait à rendre souple et maniable la volonté de ses ouailles. Le fait qu'elles étaient toutes vierges rendait d'après lui la tâche plus facile. Les veuves, remarqua-t-il non sans humour, sont portées à vivre de souvenirs. « Qu'il était bon, le défunt » disent-elles, troublant ainsi l'imagination des filles. Ou bien au contraire, si la vie conjugale avait été malheureuse, elles ternissent par leur récrimination la gloire d'un état béni par Dieu. Il avait aussi observé que la femme, dans le mariage, acquiert souvent une volonté propre, difficile à briser dans la vie monastique. « J'aime mieux avoir affaire à 8 filles plutôt qu'à une seule femme », affirmait-il. Les multiples obédiences qu'il s'imposait et qu'il imposait aux sœurs de la communauté meunière touchaient souvent à l'absurde. Ainsi, à peine rentrées à Divejevo, de Sarov, où elles avaient travaillé toute la journée, il les faisait revenir au désert, les obligeant à parcourir 24 km à pied, sans avoir eu le temps ni de se reposer ni de manger. Parfois, marchant la nuit, elles arrivaient à l'aube devant la cellule du Starets dont la porte était fermée. Le meilleur hiérodiacre de Sarov, Nathanaël, vivait à côté. « Il vous fait geler, le vieux » disait-il aux jeunes filles. « Entrez donc chez moi, vous chauffez un peu. » Certaines entraient. Le Starets se fâcha tout rouge. « Je vous défends d'y aller, étonna-t-il. Quelle sorte d'hiérodiacre est-il ? Il n'est pas hiérodiacre de Sarov. » Chose étrange, Nathanaël se mit à boire et fut exclu de la communauté du désert. Mais il arrivait aussi que de jeunes moniales, regimbant sous le joug, décidaient de quitter la communauté meunière. Toujours mystérieusement rappelées au moment même où elles s'apprêtaient à partir, elles venaient se jeter aux pieds du Père, auquel il n'était pas nécessaire de confesser leur tentation. Il savait. À l'obéissance aveugle, acte de foi, répondait le miracle. Ainsi, pendant l'épidémie de choléra qui sévit en 1830, le Starets prédit que personne ne tomberait malade, ni au couvent, ni à l'extérieur, à condition de ne pas sortir sans bénédiction. La vie quotidienne des sœurs était tissée de petits miracles qu'elles finissaient par accepter comme faisant partie de leur existence, sous la conduite de leur batiushka. Qu'il s'agisse d'un cheval lourdement chargé, incapable de gravir une pente, d'une récolte de pommes de terre, du moulin qui par un jour de grand vent tournait dangereusement vite, le miracle intervenait toujours. Des sœurs, envoyées par le Starets, cueillaient des érelles dans la forêt. Un garde champêtre à cheval voulut les chasser, leva sur elles son fouet. Mais le fouet lui tomba des mains, sans qu'il puisse le retrouver. Il en était même ennuyé, le pauvre, car le fouet ne lui appartenait pas. Quand les sœurs racontèrent l'incident au Starets, ce dernier se mit à rire. « Il peut toujours chercher son fouet, dit-il, c'est sous terre qu'il le trouve. » Le petit miracle quasi quotidien était-il destiné à renforcer une foi dépourvue de toute base intellectuelle ? La plupart des religieuses paysannes d'Idi Vieillevo n'avaient même pas fréquenté l'école. Le père m'a longuement parlé de la vie éternelle, lit-on souvent dans les déclarations faites plus tard par l'une ou l'autre d'entre elles et rapportées dans la chronique d'Idi Vieillevo. Mais en quoi consistait son enseignement ? Elles étaient incapables de le dire. Par contre, elles se souvenaient très bien du jour où elles avaient vu leur batiushka marcher dans une prairie, au-dessus de la pointe des herbes. Du jour où une future sœur, instantanément guérie d'une paralysie des jambes, se mit à faire les foins avec elle. Ou encore du jour où, après un travail fatigant, le starets leur avait servi dans sa cellule forestière un succulent repas maigre préparé à leur intention, on ne sait comment ni avec quoi, tandis que lui-même mangeait une vieille croûte de pain qu'elles avaient trouvée suspendue au-dessus d'une ficelle dans son ermitage. Le climat paradisiaque qui entourait l'homme de Dieu et auquel les animaux avaient été sensibles triomphait-il des déterminismes et des limitations de la matière ? Le Christ est ressuscité, clamait le starets. En lui, le monde transfiguré surgissait à la lumière de l'esprit. Pour lui, il n'existait pas de porte close. Le miracle fleurissait, signe du retour au paradis. Mais pourquoi, se demande-t-on, en lisant la chronique de Idi Vieillevo, les récits si simples, mais si palpitants de vie, des contemporains du starets, Mantourov, le père Basile, les sœurs elles-mêmes, pourquoi cette prodigalité folle, inutile, cette avalanche de merveilles déversée sur de frustres villageoises d'une quelconque province du centre de la Russie ? Pourquoi cet intérêt exceptionnel que la Vierge prenait à la fondation et au développement de la communauté meunière ? À la lumière des événements qui se déroulèrent par la suite, il devient apparent qu'une vision prophétique de l'avenir était sous-jacente à tout ce qui se passait à Idi Vieillevo. Démoniale, semblable à celle qui, à Idi Vieillevo, faisait par obéissance 24 km à jeun, auront, 100 ans plus tard, la force d'âme voulue pour jeûner pendant le carême dans des camps de concentration au régime de famine. Et préféreront rester debout toute une journée, immobiles dans l'eau glacée d'une neige fondante, plutôt que de travailler le jour de Pâques, suscitant par d'héroïques témoignages la curiosité admirative des incroyants. L'Église russe connaît peu de saintes canonisées. L'histoire russe, par contre, connaît peu ou pas de courtisanes. La sainteté de la Russie est diffuse dans ces femmes. À des degrés différents, elles sont porteuses de son idéal. Un portrait de femme esquissé par Léon Tolstoï en fournit un exemple. Il s'agit de sa tante, qui lui servit de mère quand il devint orphelin.
Thank you.
Pour notre prochain rendez-vous, nous continuerons à découvrir la vie de Séraphim de Sarov et son immense fécondité qui en a découlé tout autour de lui.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.